Allons au fait par Régis Debray. L'histoire mise à nu.
Le sens de l'histoire et la construction européenne. Les pères de l'Europe étaient sûrs d'aller dans le sens de l'histoire, un sens qui relevait en réalité d'une métaphysique. D'où nous est venue une construction européenne à contresens, faisant de cet épisode qui touche aujourd'hui à sa fin une leçon de choses, pour nous rappeler la prééminence du symbolique sur l'économique. Je fais là encore appel à témoins et mon grand témoin sera Jean Monnet, 1888-1979. L'ambition européenne devait marquer le siècle et faire l'histoire. Ce fut la grande affaire de deux ou trois générations. Quelques 500 millions de personnes parlant 24 langues dans 28 pays rassemblées dans une seule union volontaire et pacifique. Un grand dessein de ce genre, ça ne se passe pas par pertes et profits avant d'en enfourcher un autre encore plus magnifique et fédérateur, la sauvegarde de la planète Terre. Oui, il faut revenir un cran en dessous de la COP21. Il faut revenir sur cette épopée plus modeste, la remettre en perspective. Et pourtant, on aurait pu n'y faire ses comptes avec cette utopie, avec notre dernier demi-siècle. Et pas seulement parce qu'on ne tire pas sur une ambulance. Bon, il y a bien sûr la peur de céder aux sirènes populistes, comme on dit, de faire plaisir à des gens pas très sympathiques et de la peine à des gens très estimables qui continuent de parler relance, réorientation et nouveau départ. La crainte aussi de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme si une tâche d'aussi longue haleine pouvait se juger sur le drame des migrants, une crise parmi d'autres. Et puis, n'est-ce pas, l'Europe avance par ses cris, ce n'est pas le problème mais la solution, elle s'endort aujourd'hui mais se réveillera demain, assez de boucs émissaires, etc., etc. Formule connue. Mais il y a quelque chose de plus profond dans notre pudeur. L'Union européenne n'a tenu aucune de ses promesses. Prospérité, sécurité, croissance, emploi, pôle mondial d'influence. Beaucoup de peuples et le populaire en général lui tournent le dos. Ses fonctionnaires eux-mêmes en viennent à douter de leur contribution à un monde meilleur, mais il n'empêche. Nous sommes intimidés. Je suis intimidé. J'ai le sentiment que si on vient à ratifier un certificat de décès, on pourrait se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Un peu comme un automobiliste qui prendrait par mégarde l'autoroute à contresens. Cette autoroute qui nous mène du local vers le global, de l'étriqué vers le grand large, de l'unilatéral vers le multilatéral. Alors, tâchons de nous extraire des polémiques du jour entre les pros et les anti, pour interroger froidement ce fameux sens de l'histoire, ce sens au regard duquel il y aurait un bon et un mauvais côté de la voie royale. Alors, tournons-nous d'abord vers ce qu'avaient en tête les maîtres d'œuvre du grand chantier. Pour les pères fondateurs, l'aventure européenne était certes un acte de volonté, mais articulé sur la nécessité. L'utopie s'abattit sur du sable, mais ce n'était pas le cas d'une construction censé épouser le devenir objectif, à savoir l'élargissement régulier par paliers successifs des horizons humains. Le village s'est encastré dans la région, puis la région dans la nation, et les nations seront demain les régions d'une Europe fédérale qui, à son tour, d'ici quelques siècles, culminera dans une société politique universelle à l'intérieur d'un super État planétaire. Point d'arrivée et fin de l'histoire. Et donc, dans leur vision, l'économie et la finance étant globalisées, la politique devait suivre nécessairement. Et en s'accrochant à son ghetto municipal sans prendre la bonne direction, l'eurosceptique ne pêche finalement pas seulement par frilosité, mais par aveuglement. Il n'est pas dans les petits papiers du devenir, lequel lui fera tôt ou tard une union dans le dos. Cette vision a le mérite de la simplicité, mais quand on regarde un atlas contemporain, on peut déjà en douter, parce que je vous rappelle qu'il y avait 14 États membres de l'ONU en 1945 et qu'il y en a aujourd'hui 198. Chaque année voit s'édifier des milliers de kilomètres de nouvelles frontières. Rhétorique de l'ouverture et pratique de la fermeture. Ce couple chemine cas à cas, sans gêne aucune, au vu de tous. Il suffit d'ouvrir le journal pour s'en rendre compte. Alors, cette vision idyllique d'un futur consolateur et réconciliateur, en dépit du mythe de la tour de Babel, cette idée qu'il y a un cône de convergence progressif entre tous les habitants de la Terre, c'est une idée qui a été léguée par le monde judéo-chrétien au monde républicain et ouvrier dès le XIXe siècle. Un messianisme laïque, si vous voulez, dont Victor Hugo lui-même fut le prophète, quand il ouvrit le Congrès de la paix en 1849 sur ces mots, je cite, « Un jour viendra où l'on verra deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les murs, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie. » Fin de citation. Vous voyez, le traité commercial transatlantique, il a de qui tenir. Et je cite toujours Victor Hugo, qui, en préface au guide de l'exposition universelle de Paris de 1867, disait voir venir une nation extraordinaire au XXe siècle, illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l'humanité. Cette nation aura pour capitale Paris et s'appellera Europe. Car pour Victor Hugo et ceux de son époque, l'Europe, ce serait bien sûr une France élargie, transfigurée, projetée à grande échelle sur le continent. Bref, c'est un nationalisme qui les inspirait. Ne rions pas trop d'ailleurs de ce chauvinisme lyrique, parce que c'est une évidence qu'un ensemble politique a besoin d'un ensemblier et une union d'un unificateur, nul ne pouvant sauter par-dessus son temps, même les prophètes. Hugo n'eut qu'un tort. Il a écrit Paris et non Berlin. Quoi qu'il en soit, c'est au nom d'une histoire providentielle, je veux dire d'une automobile privée de marche arrière, autorisée à ralentir mais non à reculer, que les gardiens de la foi qui se relaient chaque semestre à Bruxelles, comme les Horse Guards à Londres devant Buckingham, continuent d'osciller entre le sentencieux réprobateur pour les entêtés du contresens, la condescendance amusée pour l'enfant chahuteur qui ne comprend pas où est son intérêt, et la réprimande patronale devant l'insolence du petit peuple ignorant des nécessités économiques. Oui, l'européisme est une croyance généreuse, infiniment respectable, et les croyances ont une résilience que n'ont pas les bévues. Elles flattent ce que nous avons de meilleur. Elles nous font voir plus beau dans le miroir. « La France est ma patrie, l'Europe mon avenir », disait François Mitterrand. Et si la foi en « l'Europe mon avenir » résiste aux déboires et aux camouflets d'aujourd'hui, perçus comme de simples reports d'échéance, c'est qu'il s'agit sans doute d'une illusion, mais attention, au sens freudien du mot. Une illusion est une croyance, je cite, dans la motivation de laquelle la réalisation d'un désir est prévalente et ne tient pas compte des rapports de cette croyance à la réalité. Car nous n'aimons pas la réalité et nous n'avons pas tort. Elle est contrariante, elle est immorale et désagréable. Nous valons mieux qu'elle, enfin, nous, tels que nous nous aimons. D'où notre propension à préférer nos désirs à la force des choses. C'est peut-être vain, mais au fond c'est très simple, parce que où irait-on si on ne le faisait pas? Où en serions-nous si on avait suivi, depuis nos 10 000 dernières années, les lois de la jungle? Et quel Européen honorable ne désirait en 1945 mettre fin à la guerre, à la misère et à l'impuissance? 14-18 n'avait pas assez épuisé les parties prenantes pour faire d'un plus jamais ça autre chose qu'un pacte en papier pour la diplomatie des lacs de l'entre-deux-guerres, autre chose qu'un vœu pieux, comme fut le pacte Briand-Kellogg, proscrivant à tout jamais le recours à la force. 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, ça a mis à genoux tout le monde, et quasiment à égalité. Allemands et Français, les victorieux comme les vaincus. On pouvait dès lors passer aux travaux pratiques. D'autant que l'Amérique, la puissance protectrice, soutenait activement l'intégration européenne qui répondait doublement à son intérêt national, à la fois comme débouché de sa production industrielle et comme glacis contre le bloc communiste. Le credo européen s'appuyait sur deux postulats. Un, l'Europe apporte la paix, alors que c'est la paix mondiale et le parapluie nucléaire américain via l'équilibre de la terreur qui ont rendu l'Europe possible et une guerre intestine impossible. Et deux, nos petits pays ne sont plus de taille face aux grands blocs, seule l'Union fera la force. Voilà deux évidences à première vue, quoique un peu douteuses à la seconde. Israël, Singapour, la Suisse ou le Qatar, les derniers par la taille, se retrouvent premiers sur beaucoup de créneaux. Et quoi de plus faiblard qu'une union en trompe-l'œil? Derrière l'apparent pragmatisme de petits pas astucieux, gisait, au sortir de la guerre, un idéalisme moral exaltant. Cet idéalisme faisait déboucher à terme la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis l'union douanière, puis la communauté tout court, sur un avenir gagné d'avance les États-Unis d'Europe. Et au fond, le traité de Rome de 1958, si bien nommé, ce fut au fond un lit pour deux rêves. Un flirt entre deux vieux adversaires sur le retour, le progressiste et le chrétien. Sous l'angle politique, un échange d'arrière-pensées contradictoires. Hein. La gauche acceptait le marché parce qu'elle voulait l'Europe, et la droite acceptait l'Europe parce qu'elle voulait le marché. On peut dire que c'est un marché de dupes, en tout cas pour la gauche. Parce que l'Europe s'en va, mais le marché, lui, il est bien là. Mais enfin, sous l'angle spirituel, que je trouve plus intéressant, on peut voir un compromis passé entre deux mystiques d'âge différent, entre ce qui restait de la chrétienté d'un côté et ce qui restait des Lumières de l'autre. Disons, entre des démocrates chrétiens, Schumann, Adenauer, Gasperi, et des sociaux-démocrates comme Nenni ou Brandt ou Mauroy. Disons que l'alliance des deux piétés héréditaires s'est faite à partir d'une même appréhension finaliste du temps. Un finalisme, ça veut dire quand la fin est la cause. C'est-à-dire quand on se guide, on est téléguidé par la fin. Donc, une appréhension finaliste du temps, qui est pour les uns l'accomplissement d'un programme évangélique de salut, les chrétiens, ou pour les autres, un cheminement de la raison, avec un R majuscule, la raison, ce grand vide unificateur. Donc l'Europe, c'est vrai qu'elle est née catholique, et elle est devenue avec le temps d'inspiration protestante, suite à la nouvelle hégémonie du Nord sur le Sud. Mais il est symptomatique que le pape François, soit aujourd'hui le dernier à vouloir donner un sens à ce qui n'en a plus beaucoup. Un sens spirituel, car c'est sa foi à lui, la mieux armée, la plus solide. Je dirais que nos européistes militants sont des théologiens qui s'ignorent, y compris les athées, et qui refusent de payer tribut aux vrais pères fondateurs qui sont d'un côté saint Augustin et Hegel de l'autre, alors que les traités, c'est un pacte œcuménique entre ces deux parties. Sa rédaction, il est vrai, elle doit plus à saint Augustin, elle doit plus à l'évêque d'Hippone, parce que, vous l'avez remarqué, le drapeau de l'Europe est bleu, couleur de la Vierge Marie, et il a 12 étoiles, empruntées à l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le legs d'un jésuite belge. 12 étoiles et dont 28, comme il se devrait. Écriture sainte oblige. Les vétérans du Vatican rêvaient d'une nouvelle chrétienté, laquelle se porte toujours mieux quand les États-nations font profil bas. Rendre à César, oui, mais le moins possible. Et les descendants d'un rationalisme un peu 19e-iste, un peu exsangue, rêvaient quant à eux d'une apothéose des Lumières, studieuse, industrieuse, démocratique et pacifique, avec une commission, la Commission européenne à Bruxelles, porteuse, je cite, de l'unité en marche de notre continent. La vie est faite de malentendus et l'Europe aussi, comme le reste. Elle aura fait, en somme, un quiproquo exceptionnel entre le pacifisme des socialos, l'hédonisme du bobo, l'économisme des libéraux, le juridisme des juristes et l'atlantisme des généraux. C'est un malentendu, hein, mais il a eu ses revenants bons de part et d'autre. Aux conservateurs vieux jeu, il aura donné un coup de jeune, et aux orphelins du progrès, un messianisme de rechange. Il ne faut pas s'en plaindre. Et c'est d'ailleurs au moment, vers 1983, si je me souviens bien, où le socialisme dans la liberté glissa doucement dans la trappe, que fut lancé, en France, Mitterlet et Bouchetroux, le grand récit de l'horizon 90. Il était le bienvenu, hein, parce qu'on ne détruit que ce qu'on remplace, et remplacer un espoir vieillissant par un autre flambant neuf, c'est une sage précaution. La relève pour le bout du tunnel, comme une relève des premières lignes au front, c'est bon pour le moral des troupes. Cela donne un or aux déboussolés et une grande cause à ceux qui n'en avaient plus. Dans la mesure où donner une direction, c'est donner un sens, la ligne de fuite européenne aura, sinon prévenue, du moins retardée, l'avènement du nihilisme dans les affaires publiques, désormais officielles. Sauf que les effets psychologiques de l'atterrissage sont moins heureux. La gueule de bois, après l'espoir, cela alimente par réaction le ressentiment revanchard et chauve, type Front National, si vous voulez, à trop brimer les fiertés patriotiques, à trop mépriser la souveraineté populaire. Le retour de bâton s'effectue sous les plus mauvais auspices. Qui veut faire l'ange, c'est connu, donne à la bête un marchepied. Alors on a sans doute raison de déplorer le retour des égoïsmes nationaux, mais il serait facile de montrer qu'ils n'avaient jamais quitté la scène, car les 6, puis 9, puis 12, puis 28, puis demain on ne sait combien de nations participantes, elles ont pris, elles sont montées dans le tramway nommé Europe pour satisfaire un intérêt national bien compris. Si le phénomène donne des maux de tête aux doctrinaires du libre-échange, c'est qu'ils voient là rien moins que le retour du malin dans un continent qu'on croyait en marche vers le bien. Car toute religion se doit de résoudre le problème du mal, et dans cette religion-là, dans cette métaphysique, le diable, c'est l'État-nation. Il convient de l'affaiblir et de le haïr, toujours comme d'ailleurs Jean Manel l'a fait dès son entrée dans la carrière, juste après-guerre. Car dans cette conception, c'est de nos précarés respectifs que sont venus au siècle dernier les calamités guerrières. Vous connaissez la formule, le nationalisme c'est la guerre. Si vous regardez d'un peu plus près les événements, vous pourriez penser que ce sont plutôt les empires et non les nations qui ont déclenché les engrenages catastrophiques. Empire allemand et britannique en 1914, empire allemand et japonais en 1940 et 41, américains et russes par la suite. Il faudrait plutôt dire l'impérialisme, c'est la guerre. Mais enfin, il est toujours dangereux de se plonger dans les livres d'histoire, notamment les ouvrages de Jaurès sur la défense nationale. À y regarder trop près, on risquerait d'y perdre son latin. Cela dit, on peut admirer les visionnaires assez audacieux pour fabriquer sur plan un objet politique non identifié, un OPNI, déjouant les lois attristantes de l'intérêt local, autant dire de la chute des corps, grâce à la libre circulation des marchandises et des capitaux. Cette Europe que le pape François affectueusement appelait « grand-mère », écrivait récemment M. Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne. Cette Europe doit redevenir la mère d'une nouvelle vision politique plus généreuse et porteuse d'espoir. Une fédération sans fédérateur, enfin sans fédérateur apparent. Une structure sans dominance, une puissance sans défense, une file sans chef de file, c'est en effet une vision et même une entorse, proche du miracle, aux lois de la pesanteur. Ce qu'est un peu l'immaculée conception au péché originel, ou le mensonge romantique à la vérité romanesque, ou la lampe d'Aladin à l'ampoule électrique, si vous préférez. Bruxelles avec ses mirages et Lourdes avec ses miracles ont eu pour point commun de nous avoir offert un rêve, le rêve d'un au-delà de nos lois de reproduction banalement polémique et dialectique. Parce que, si vous vous souvenez bien, l'Allemagne morcelée s'est unifiée au XIXe siècle. Mais pas par l'union douanière, pas par le Zollverein, mais par les victoires militaires de Sadova et de Sedan sur l'Autriche et la France. Et pour notre morcellement à nous, les Européens d'après-guerre, les choses avaient pourtant commencé d'une façon on ne peut plus classique et dialectique, par confrontation avec l'étoile rouge. Parce que les démocraties européennes trouvèrent à ce moment-là, grâce au rideau de fer, un incurable, un imparable, un impérieux catalyseur qui était le bloc communiste. Business as usual, si vous voulez. Parce que chaque fois que l'Europe a cessé d'être une expression géographique pour devenir une expression politique, ce fut chaque fois donc au lendemain d'une bataille contre un ennemi extérieur et un peu trop expansif. Poitiers 732, les Francs face aux Sarrasins. Un rezzo peut-être, une escarmouche, mais symboliquement profitable. 1571, les Pentes, grande bataille maritime. Face aux Grands Turcs, la Ligue, face à Ali Pacha, Don Juan d'Autriche, réunis sous sa houlette, Savoyards, Génois, Romains, Vénitiens et Espagnols. Et alors là, 1571, le mot « Europe » retrouve un sens politique. Alors, le rôle catalyseur du calife Omeyyade et du sultan ottoman, au fond, il aura été tenu par Staline. D'ailleurs, Jules Monroe, à l'époque, décrivait assez finement le communisme soviétique comme l'islam de l'Occident. Un islam du dedans, pour ainsi dire. Oui, on peut dire que la création continue du barbare est un devoir de civilisation, parce qu'une communauté de destin suppose un ennemi commun. Challenge and response, dit l'historien anglais Toynbee. Oui, le défi est la réponse. L'Empire perse explique le génie grec, Mahomet explique Charlemagne, et Staline explique la communauté européenne. Nous allons vous faire un sale coup, vous priver d'ennemis, lançait en 1989 un diplomate soviétique à son interlocuteur américain. L'OTAN s'en est trouvé d'autres aussitôt, pour parer le coup. Quelle fédération n'a pas vérifié cette vérité première? Nul ne se pose qu'en s'opposant. La Suisse, vous allez me dire, la paisible Suisse. Oui, elle s'est opposée les armes à la main au Saint-Empire romain germanique, comme la République protestante de Genève au Grand-Duché de Savoie. D'ailleurs, à Genève, on célèbre encore la journée de l'escalade. Et les États-Unis à la couronne britannique. Au fond, ça nous ramène à un constat politiquement très incorrect, dressé il y a 25 siècles par le dénommé Héraclite, Héraclite d'Éphèse, je cite, « Polémos est le père de tous les êtres, il a fait les uns esclaves, les autres maîtres, ajoutant « Tout devient par discorde et nécessité ». Oui, c'est vrai. Pas de politique sans polémique, pas d'unité sans division. De même qu'un homme sans ennemi est un homme sans destin, une entité politique qui refuse d'en avoir n'accède pas à l'actionnariat historique. Dura lex sed lex. Inutile de citer Carl Schmitt là-dessus, c'est dans toutes les chroniques depuis 3500 ans. Il y a des rythmes dans la vie des peuples comme des individus, des biorhythmes, une respiration, Il est naturel et sain, par exemple, qu'une beuverie débouche au petit matin sur un serment d'éternelle sobriété ou une chaude pisse sur un vœu de chasteté. Pardonnez cette comparaison. De même, il est parfaitement salutaire qu'une monstrueuse hécatombe débouche à chaque reprise sur un projet de paix perpétuelle. La guerre civile européenne de 14-18 a fait du pacifisme une religion française et populaire. La guerre mondiale de 39-45 a fait du triptyque arbitrage, multilatéralisme et sécurité collective un idéal consensuel. C'est une décompression légitime. Il est normal en particulier qu'un peuple exsangue, gorgé de volkisch, de forêts noires et de valkyries, envoûté par les mythes wagnériens de la terre et des morts, se tourne en réaction vers des conceptions éthérées du lien social, tel le trait désincarné patriotisme de la Constitution proposé par M. Habermas à ses compatriotes, soit une Allemagne hors sol, sans histoire ni géographie, sans fête de la bière ni culotte de peau, sans Lorelai ni ligue hanséatique. À chaque peuple, sa catharsis ou, si vous voulez, son défibrillateur après un affolement cardiaque. Un peuple. Vous savez, un peuple, c'est deux choses en une. Et d'ailleurs, les Grecs avaient deux mots pour le dire. Ils avaient « demos » pour désigner la masse du peuple, par opposition au roi, et « ethnos » pour désigner un groupe humain qui a la même langue et les mêmes coutumes, par opposition à ses voisins. Et alors, on peut proposer un « demos » sans « ethnos ». C'est ce qui succède généralement à un « ethnos » sans « demos ». Je veux dire qu'après un délire culturaliste, il y a un mouvement pendulaire des plus naturels vers le démos. Ça n'interdit pas de souhaiter qu'on puisse un jour raccorder les deux moitiés du programme, le démos de gauche et l'ethnos de droite, si vous voulez. Le peuple avec ses droits imprescriptibles et le peuple comme personnalité indestructible. En tout cas, une démocratie anhistorique et aculturelle, ça ne résiste pas longtemps au retour un peu effrayant du refoulé ethnique, voir ce qui se passe en ce moment chez nos amis germaniques, s'il est permis de les appeler ainsi. Alors bien sûr, il faut être prudent, il ne faut pas abuser de la recherche d'un antagoniste. Ça peut devenir un poison dès qu'on en abuse. La notion d'ennemi exige un usage pharmaceutique parce qu'elle a l'ambivalence du pharmakos grec. Autrement dit, dire « nous sommes en guerre », c'est toujours une position à risque. La sagesse grecque disait également « meden agan », rien de trop, n'abusons pas. Quoi qu'il en soit, en se dérobant au devoir de l'IMES, de la frontière, l'Union européenne se dérobait à sa responsabilité historique. Bien sûr, il y a d'autres causes à son actuel délitement, plus ostensible, pour citer en vrac, déficit de leadership, mauvaise architecture institutionnelle, surendettement public, poussée migratoire imprévue, élargissement précipité non préparé vers l'Est, absence d'une banque centrale réellement centrale et j'en passe. Chacun connaît la checklist des réparations nécessaires pour faire redémarrer la machine jusqu'au grand saut final fédéral et salvateur. Oui, une fiscalité commune, un ensemble à cercle concentrique avec un noyau dur, une réduction des niveaux de pouvoir pour l'heure impossible à coordonner parce qu'il y en a trop, commission, conseil, secrétaire général, parlement, une subsidiarité plus franche, etc., etc. Sans oublier nos propres défaillances morales, à nous, piètres européens, qui ne sommes décidément pas à la hauteur de l'Europe. Car on nous le répète, ce n'est pas l'idée de l'Europe en soi qui a failli, c'est le manque d'Europe, ou plus exactement, la trahison de l'idéal européen, tellement éloigné de ce que nous avions espéré, dit Romano Prodi. Oui, c'est un leitmotiv, ça. Ce n'est pas la monarchie absolutiste qui a failli, disait-on sous la Restauration du côté de Joseph de Metz, c'est l'inconséquence de cet absolutisme, mais c'est plus de droit divin qu'il nous faut. Ce n'est pas le communisme qui a failli, je l'ai entendu dans des bouches d'ultra-militants. Ce sont les compromis passés avec le monde capitaliste. C'est plus de communisme qu'il nous faut. Donc ce n'est pas moi, c'est plus d'Europe qu'il nous faut. Chaque fois qu'un dogme vient à péricliter, il se sauve dans l'esprit des fidèles par une fuite en avant. Cette surenchère en légitime défense évite le pire, la remise en cause de toute une vie. Alors c'est vrai, toutes ces imperfections et propositions d'ordre technique, elles ont leur part de vérité. Mais je crois qu'elles ne remontent pas à la voie d'eau originelle qui fait que le navire n'est pas loin du naufrage. La voie d'eau, c'est la superstition du lien économique ou de l'économie comme reliance sociale et religion. C'est avec l'idée qu'on allait pouvoir passer de la concurrence non faussée à une cohésion vécue, d'une zone de libre-échange à une communauté politique de destin sans rupture de charge. C'est avec l'idée qu'on pouvait susciter une affection sociétative, c'est-à-dire un sentiment vécu de solidarité avec une règle à calcul assortie de règlements juridiques. C'était l'idée, si vous voulez, qu'on pouvait créer de l'organique avec une mécanique fondée sur l'addition économie plus droit. Et, à mon avis, c'est la misère symbolique d'un projet pourtant destiné à rassembler des pays riches, hein, qui me paraît le danger numéro un. C'est le fait qu'on puisse voir dans le gratte-ciel dont chaque mot fait frémir les marchés financiers, fin de citation, dans le gratte-ciel où s'est installée la Banque Centrale Européenne, à Francfort, dans l'ancien marché de gros aux fruits et aux légumes, qu'on puisse voir dans cette banque le donjon, la flèche et le cœur du réacteur Europe. Alors là, ça c'est le danger. C'est l'absence de finalité. De finalité autre qu'une allocation de ressources supposées optimales. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la grandeur morale invoquée dans cette affaire par nos hommes d'affaires aux commandes, elle n'a pas les soubassements psychiques, disons, psychomoteurs dont elle aurait besoin. L'Europe a des valeurs et ses représentants en sont fiers, légitimement. Nous avons tous des valeurs et en parlons fort bien. D'autant plus que les valeurs n'ont jamais contraint ceux qui en ont à faire ce qu'ils disent. L'estime de soi, elle, doit puiser au plus profond dans des ressources imaginaires et symboliques. Et une banque, ça ne fait pas un imaginaire commun de ceux, par exemple, qui se gravent sur des pièces de monnaie et s'impriment sur des billets. Les billets de banque sont les lapsus des collectifs, leur mot d'esprit, dirait Freud, ou d'absence d'esprit. La zone euro a peut-être le papier monnaie qu'elle mérite, mais elle ne laissait pas pressentir un grand avenir. Quand ce billet fut mis en gloire et en feu d'artifice à Paris, Rome, Berlin et ailleurs le 1er janvier 1999, quand nos capitales ont célébré en grande pompe l'apparition de 7 nouveaux billets et de pièces baptisées « cents » à l'américaine. En langue romane, cent veut dire centaine et non centième. C'était censé ouvrir sur le vieux continent une nouvelle ère historique. Fallait pas être bien malin pour froncer le sourcil à la vue de ces coupures. La preuve, c'est ce que j'ai pu en dire à l'époque du fond de mon ignorance, et permettez-moi de me relire 25 ans après, de relire un article que j'avais fait en 1999. Ouvrons les guillemets. Que voit-on sur nos futurs billets ? Recto, une fenêtre, verso, un pont. Fenêtre et portail illustrent l'esprit d'ouverture et les ponts, l'idée de communication. 5 euros, une baie antique, un aqueduc. 10 euros, un portail roman, un pont de pierre. 200 euros, une porte vitrée, un viaduc. Pas un homme, pas une silhouette sur ces passerelles entre ciel et terre. piliers et colonnes sont posés sur le vide. Aucun nom propre, aucun portrait, aucune devise sur ces billets. Pas de date, pas de lieu. Un visuel d'ordinateur. Marketing et design ont accouché d'un système d'identité visuelle auquel personne ne peut affectivement s'identifier. Cette terre flottante sans pilotis dans la mémoire de ses habitants, est-ce que c'est ça la métanation? Le grand peuple en formation qu'on nous avait annoncé, euro, Europe, année zéro? Serions-nous donc européens sans souvenir? Bon, laissons les gloires politiques et militaires de côté parce que ça vexerait toujours un amour-propre national. Enfin, il y avait encore, pour inscrire sur ce genre de coupure, Erasme, Newton, Camoens, Shakespeare, Garibaldi, Goethe, Voltaire, Cervantes. Aux grands hommes, l'Europe reconnaissante. Bah oui, 15 pays, 21 demain, 21 galeries de grands hommes. On l'admet, le choix n'était pas aisé. Mais la réduction de l'héritage à de l'immobilier et de la mémoire européenne à des lieux sans mémoire, cela témoigne d'une inquiétante inaptitude à personnifier, à donner à voir et à imaginer sans équivalent dans la genèse des autres fédérations dans le monde appelées à durer. Permettez-moi, je continue. Que nos États-Unis d'Europe puissent un jour faire la paix avec les États-Unis d'Amérique, goûter, oui, c'est toujours comparé. Enfin, placez ces deux petits rectangles de papier l'un à côté de l'autre. Le greenback de l'oncle Sam, hein, c'est deux siècles d'histoire en recto verso. Un western incarné, avec des noms propres. $1... figure de Washington, $2, figure de Jefferson, $5, figure de Lincoln, $10, Hamilton, $20, Jackson, $50, Ulysses Grant. Les 13 colonies américaines avaient la même langue, la même foi en Dieu et surtout, important, un même ennemi, la couronne britannique. Avantage de départ considérable. Mais enfin, ce puzzle de colonies s'est soudé dans un pays souverain, non par le biais de l'économie, mais par un acte politique, suivi d'une guerre anticoloniale de libération, et ça s'est ensuite trempé dans une guerre de sécession. Si vous avez la chance d'avoir un billet de $100 entre les mains, je vous le souhaite, vous verrez au recto Benjamin Franklin et au verso l'Independence Hall de Pennsylvanie, un lieu de mémoire bien identifié sous la devise « In God we trust », en Dieu nous croyons. L'Europe, bien sûr, n'est pas la terre d'un peuple élu, Dieu merci. Est-ce à dire qu'elle ne peut rêver à rien d'autre qu'à échanger au meilleur prix des marchandises? Oui, je vous demande de regarder un peu plus près un billet de $1. Vous allez voir ce que c'est qu'une symbolique. Washington en médaillon, c'est l'ancien commandant en chef de l'armée continentale, perruque poudrée, jabot, 64 ans. Observez le sceau de près, l'aigle. L'aigle représente la souveraineté américaine. Sa tête, c'est l'exécutif, son écusson, le législatif, et sa queue à neuf plumes, le judiciaire. Dans sa serre droite, un rameau d'olivier. Dans la gauche, les flèches de la guerre. Le tout sous une gloire divine qui est l'Esprit Saint. Retournez votre billet et voyez au verso, vous avez l'œil du bon Dieu bien ouvert, qui couronne la pyramide à 13 gradins, les 13 colonies. Donc vous avez la puissance de l'État sous élection divine. Et vous avez une inscription en latin sur le dollar, « Annuit septis », « Dieu a secouru nos entreprises ». C'est drôle que le Nouveau Monde parle latin, et pas l'ancien. En tout cas, vous avez là le blason d'une nation à la destinée manifeste, hein, manifeste destinée, d'une nation messianique, sans doute la dernière au monde de ce type, avec Israël peut-être, mais cette nation américaine, elle a vocation, elle, à vouloir la gouvernance globale. L'euro à côté, ça ressemble à un billet de Monopoly, aucune histoire à raconter, pas d'événement fondateur, pas de héros d'indépendance et pas d'indépendance. Fin de citation. Résultat des courses, 20 ans après, les États-Unis ont une symbolique, l'Europe a des statistiques. Les États-Unis existent, l'Europe unie n'existe pas. On aurait pu s'en apercevoir plus tôt, me direz-vous. Mais le retard à la détente est inévitable et l'imprévoyance aussi, quand on refuse d'apprendre du passé sous prétexte qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire. Oui, il n'y en a pas surtout pour ceux qui se bouchent les oreilles ou s'éduquent dans des business schools façon Sciences Po à Paris. Ce n'est évidemment pas au lancement de l'euro qu'il faut remonter. L'euro n'est qu'un symptôme. Mais 50 ans auparavant, il faut remonter au logiciel source, tel que le conçut l'inspirateur avec un grand I, le discret Jean Monnet, élégante et fatale incarnation de l'homo economicus. Il était, lui, et ses coéquipiers du Comité des États-Unis d'Europe, lancé après-guerre, il était persuadé qu'une union économique et monétaire déboucherait par un irrésistible engrenage, sinon sur une Europe indépendante, donc armée et cuirassée, du moins sur une puissance politique digne de ce nom. C'est peu dire qu'il n'avait cure, qu'il n'avait souci des universaux du regroupement humain, Eurogroupe inclus. L'histoire n'intéressait pas Jean Monnet. Banquier expéditif, éduqué à Londres, puis au Canada et aux États-Unis, fasciné par la puissance américaine, chargé à Alger auprès du gouvernement provisoire en 1943 des fournitures pour la Deuxième Guerre mondiale, puis commissaire au plan dans la France libérée, Jean Monnet croyait dur comme fer dans la priorité de l'intendance et la primauté de l'expert sur l'élu. Il s'estimait bien sûr, et comme tous ses pairs en technocratie, libéré de toute vaine idéologie ou théorie. C'est un genre de présomption dont mieux vaut se garder. Parce que chaque époque a son idéologie et on n'en a jamais vu qu'il n'en ait aucune, sans besoin pour se faire de bréviaires ou de grands discours. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie ? C'est tout simplement ce qu'un groupe d'hommes, quel qu'il soit, s'accorde à tenir pour réel. C'est plus précisément le partage qu'il fait d'instinct entre le dur et le mou. Et M. Jean Monnet, très avare en discours et imbu de sens pratique, tenait que le plus réel dans l'homme, c'est le producteur et le consommateur, et que l'économie, c'est le dur, et le culturel, le mou. Tel était son a priori, dont ses successeurs se firent un catéchisme appelé néolibéralisme. Le marché fera le bonheur des hommes, fût-ce en cassant tous les services publics. Pourquoi ? Parce qu'il fera baisser les prix. La phrase fameuse qu'on a prêtée à Jean Monnet, « S'il fallait refaire la construction européenne, il faudrait commencer par la culture », c'est très sympathique, mais c'est apocryphe. Il n'a jamais dit cela. On serait d'ailleurs bien en peine de lui donner une traduction concrète à cette belle phrase, parce qu'une culture, c'est d'abord une langue. Monsieur Jean Monnet eut évidemment commencé par l'anglais, comme langue officielle des institutions européennes, ce qu'elle n'est devenue que plus tard. D'ailleurs, ça nous aurait peut-être fait gagner du temps et de l'argent, ça aurait allégé les services de traduction. L'adhésion des derniers pays candidats, elle s'est discutée et réalisée uniquement en anglais, et la part des documents officiels rédigés en français est passée de 38% en 1996 à moins de 5% en 2015. Et si M. Moscovici, commissaire européen, écrit de Bruxelles en anglais au ministre français des Finances à Paris, c'est simplement pour mieux se faire comprendre. Alors, un réalisme matter of fact qui se trompe sur le principe de réalité, c'est plus fâcheux qu'un boy scout la main sur le cœur. Parce que le boy scout, on va s'en méfier, alors qu'on ne peut pas soupçonner le réaliste de nous envoyer dans le mur pour passer outre ce très curieux et paradoxal principe de réalité, stipulant que seul un irréel en amont peut donner consistance à un ensemble en aval. Je vous ai parlé déjà du principe d'incomplétude. Disons que une forte relation entre exige une relation à, en sorte qu'une commission supranationale doit admettre un encore plus supraquel pour faire autre chose qu'un agrégat inconstitué de membres désunis. Oui. Les besoins objectifs d'une communauté sont médiatisés par des représentations subjectives, ou si l'on préfère, ces jugements de réalité sont médiatisés, informés par des a priori d'ordre mental, la vérité, la justice, l'intégrité. Qu'il ne puisse y avoir de coordination fiable entre les humains sans une référence à un principe sacralisé et indémontrable, c'est assez difficile à admettre, je le reconnais, surtout quand on fait profession de modernisme up-to-date, et on peut comprendre que ce principe dit d'incomplétude, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, échappe aux esprits les mieux intentionnés, mais cela se paye, hélas, au prix fort. Le glissement d'une union sans exemple ni précédent à une cancanie mal déguisée, cancanie, c'était le nom donné par le romancier Musil à l'Empire austro-hongrois à la veille de 14-18. J'y verrai pour ma part une contribution des plus utiles à l'étude de l'impératif symbolique. Que le mieux soit l'ennemi du bien, on le savait déjà, me direz-vous. Mais ce qui va au-delà du lieu commun, c'est le renversement du pour au contre. On nous a dit, nous voulons un monde de consommateurs tourné vers le futur sans fil à la patte. Soit. Moyennant quoi nous tombe dessus ce qu'il y a de plus rétro. Le post-national, attendu ou prétendu, éclate en micronationalisme et en résurgence pré-nationale, Catalogne, Écosse, Padanie, Wallonie. Des résurgences qui nous font apercevoir au bout du XXIe siècle un paysage assez proche de celui du XVe siècle. Autrement dit, il y aura beaucoup de passé dans l'avenir européen, semble-t-il. La nouvelle ère, apparemment, ne sera pas au rendez-vous. Je veux dire, l'Europe régénérée, rachetée de ses péchés originels, égoïsme et bellicisme, avec des gouvernements nettoyés en gouvernance, transparente et proprette, 3% de déficit, main invisible, espace vert, mission humanitaire, énergie renouvelable. Oui, il fallait être un ennemi du genre humain pour se refuser un tableau de ce genre, où Emmanuel Kant allait donner la main au prophète Isaïe. Les fruits, dirons-nous pudiquement, n'ont pas passé la promesse des fleurs. Et si aujourd'hui l'Europe s'est intégrée, on commence à savoir à quoi, au tout marchandise, et à qui, en termes diplomatiques et militaires, au chef de file d'outre-Atlantique, qui, fort de son avancée technologique et de son génie dans l'industrie culturelle, pourra encore mieux phagocyter nos petites principautés régionales, plus faciles à digérer que des vieux États-nations ayant encore pignon sur rue. Oui, parce que nos petites enclaves intérieures ont sans doute retrouvé une certaine identité culturelle avec une langue d'origine et des folklores revivifiés, mais sans pouvoir décisionnaire, sans force armée et sans vision du monde, elles pourront et devront se connecter en direct avec l'hyperpuissance extérieure qui en fera ses relais d'influence. Cette Europe-là, à 28, à 35, à 40 et pourquoi pas à 50, ça fera une excellente affaire pour les États-Unis d'Amérique, grand soutien et pour cause d'une union postiche, sans ambition ni volonté. Alors c'est vrai, beaucoup d'Européens peuvent trouver leur bonheur dans cette perspective qui les exonère des devoirs et contraintes de l'existence historique. Ce n'en est pas moins l'inverse du projet initial, celui des années 50, qui tendait à faire d'un continent réduit au second rôle un acteur de premier plan, au même niveau que les plus grands, je veux dire, une Europe indépendante, une Europe européenne. Bref, si on ne peut jamais savoir l'histoire qu'on fait, on en sait tout de même assez pour savoir comment on est refait quand on fait sienne la pensée managériale, cet illusionnisme bardé de chiffres et de courbes qui croit pouvoir configurer et commander une communauté humaine à partir des seuls indices de production, consommation et dépenses publiques. L'économie est une science, disons une parascience, très approximative, mais en aucun cas la science pilote de l'avenir, à quoi beaucoup prétendent. Alors, viendra un jour, n'en doutons pas, où les Européens, ou du moins certains d'entre eux, se réveilleront pour de bon. Parce que contrairement à ce qu'on dit, l'histoire repasse les plats. Et il reste à souhaiter qu'à notre prochain banquet fédératif se mêlent d'autres cuisiniers, d'autres convives avec un menu, disons, plus relevé. Oui, il y a des exploits qu'on ne réussit pas du premier coup. Gageons que l'Europe européenne fait partie de cela. Alors, sursum corda, les amis, haut les cœurs et à la revoyure.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.